Demain, l'espace public, ce sont des rencontres mensuelles proposées à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, l'AZAT, zone artistique temporaire, et TransZAT, programme d'urbanisme culturel. Architectes, urbanistes, philosophes, anthropologues viennent parler de ce qui se fait déjà et de ce qu'on peut imaginer pour rendre nos villes plus vivables, mais aussi plus vivantes et vibrantes. La troisième rencontre, Demain des villes relationnelles, a eu lieu le mardi 8 novembre 2022 avec Sonia Lavandino, anthropologue urbaine, co-autrice de La ville relationnelle, et Marie Antune, directrice de l'atelier Lieu d'activation, art et espace public sur plusieurs projets menés dans les communes de la métropole de Montpellier. Voici l'enregistrement intégral de cette soirée.
Alors Sonia Lavandino est anthropologue urbaine. Elle a une grande expérience à la fois théorique et pratique de la ville et des questions urbaines. C'est une experte reconnue à l'échelle internationale des questions de mobilité, des questions de transformation de la ville, des nouveaux enjeux qui s'opposent dans la ville. Et voilà, Sonia, je te donne tout de suite la parole. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation de ton parcours et de tes activités, parce que tu auras l'occasion, je pense, d'évoquer plusieurs des projets sur lesquels tu as travaillé dans le cadre de ton intervention. On t'écoute.
Merci. Merci, c'est avec joie que je suis ici à Frontignan. Je retrouve un petit peu ce territoire. J'avais eu l'occasion d'accompagner le projet de territoire du bassin de Thau, de Sète, il y a de ça quelques années. Nous étions rencontrés à cette époque. Et ça me fait très plaisir d'être de nouveau ici, au bord de la mer. On ne l'a pas encore tout de suite vue, mais on sait qu'elle est là. On y croit. Et donc cette ville relationnelle, c'est aujourd'hui en effet le thème qui nous anime, qui me porte. Ce thème est issu d'une prise de conscience très forte que nous avons eue avec Pascal d'ailleurs, et aussi un autre coéquipier en écriture qui n'est pas là ce soir, Yves Winquin, qui est notre troisième compagnon d'écriture de ce livre, de cet ouvrage éponyme qui s'appelle La ville relationnelle, que nous avons enfin fini de rédiger et qui sortira très bientôt et sera bientôt publié. Je profite pour vous dire que j'ai contribué personnellement au choix des livres qui sont dans la fameuse librairie que vous avez évoquée récemment. On m'a demandé de donner un peu ma wish list, les livres que je trouve qui sont vraiment importants sur ces questions de transformation de la ville, et j'en profite pour vous en rajouter un dont je ne connais pas le nom en français. Je ne sais pas s'il a déjà été traduit. Il s'appelle Joyful. Il a été écrit il n'y a pas longtemps par une designer qui est très connue aux États-Unis, qui a travaillé chez Ideo notamment, qui est une référence en design. Et ce livre parle d'à quel point nous avons besoin de plus de joie dans nos vies, et c'est un thème qui est aussi très fortement corrélé avec celui de ce soir, donc je pense que c'est bien de pouvoir mentionner ce livre-là, qui mentionne entre autres ce dont on va parler aujourd'hui, qui est ce que j'ai nommé le triptyque relationnel, en fait, la ville relationnelle. Pourquoi ce terme ? Nous avons trouvé avec Pascal et Yves que c'était un terme fédérateur qui faisait immédiatement référence à de quoi on veut sortir. On veut sortir de la ville fonctionnelle, on veut sortir de la ville du dedans, on veut sortir de la ville qui, d'une certaine façon, on l'a vu avec le Covid, nous emprisonne dans quelque chose qui ne nous laisse pas rentrer en relation. Et rentrer en relation avec quoi ? Alors ça, c'est cette question, c'est pour ça que je l'appelle le triptyque, parce qu'il s'agit véritablement d'un triangle de relations. Tout d'abord, la relation avec moi-même, parce que, évidemment, sans relation à moi-même, sans relation à mon corps, et en particulier sans relation à mon corps en mouvement, et c'est bien dans ce sens-là qu'on parle de ville, parce que c'est quand je suis dans la ville, quand je me baigne d'une certaine façon. On parlait de l'eau tout à l'heure, mais finalement c'est aussi cet espace urbain est un peu comme une baignade d'une certaine façon. Nous enjambons l'espace, nous y mettons de tout notre corps, hein, dans cette immersion urbaine, et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour nous en tant qu'humains. En tant qu'humains, n'oublions pas, nous sommes donc aussi des mammifères. Nous appartenons à ce règne animal. Nous avons des besoins biologiques forts, hein, et nous le savons tous et toutes, surtout celles qui ont des talons. Je vois que Marie est mieux équipée que d'autres, mais on a besoin. Parfois, on est fatigué. Parfois, au contraire, on est énergisé. Donc, on voit bien que cette relation à notre corps, elle fait totalement partie de comment nous allons être en relation avec le monde. Nous ne sommes en relation avec le monde que parce qu'il y a médiation de notre corps, et notamment de notre corps en mouvement. Et c'est pour ça que je parle autant de la marche dans mes travaux, dans mes écrits, dans mes expertises auprès des villes. C'est parce qu'il nous faut avant tout une ville marchable, une ville qui porte notre corps en mouvement. La marche est plutôt un moyen. La fin, c'est la relation à notre corps. Ça, c'est le premier pilier de notre triptyque. Le deuxième pilier, c'est la question du vivant, le vivant avec un grand V. Il y a, aujourd'hui, je pense, plus que jamais, besoin de renouer avec ce lien au vivant, vivant au sens large, hein. Évidemment, la présence de la nature en ville, la présence de l'eau en ville. Et c'est une image des gratte-ciel, c'est un peu dans ce même esprit ici à Lyon, hein. On est à Lyon, dans les gratte-ciel, j'ai pris cette image... ville urbaine, pardon, oui, c'est vrai que Lyon, j'exagère, soyons précis. Ville urbaine, et à ville urbaine, j'ai pris cette image parce que nous avons à la fois l'eau et cette présence de ces canopées. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, suite aux canicules à répétition que nous avons connues cet été, et vous le savez, on vient de l'annoncer à la COP27, nous sommes à l'été le plus chaud des plus chauds des plus chauds. Je pense que ça ne va pas s'arrêter là, bien évidemment. Vous, ici à Montpellier, vous êtes au front, si je peux dire, de ces évolutions. J'entends en Méditerranée, on voit bien que c'est quelque chose de difficile. Pour avoir l'occasion d'avoir déjà travaillé dans ce territoire et de continuer à travailler dans ce territoire, aujourd'hui je travaille avec la ville de Juvignac, on va d'ailleurs y venir très concrètement, puisqu'on m'a demandé justement de faire quelque pas, un pas de deux aujourd'hui entre, on va dire, le cadre, ce grand cadre de la ville relationnelle et comment très concrètement on peut l'inscrire dans un territoire donné, et vous allez voir que c'est tout à fait possible. Et je crois que c'est là que la culture a un rôle extrêmement fort à jouer. Aujourd'hui même, nous sommes ici avec un certain nombre d'étudiants de Pascal, avec un certain nombre d'artistes représentés par l'Ateline, avec qui, pas plus tard que demain matin, nous allons nous rencontrer à Juvignac pour mettre tout ça en œuvre, pour mettre tout ça en musique. Et je crois personnellement beaucoup au fait que la chose qui va nous sortir de l'ornière par rapport à ce défi climatique, ce qui va réellement pouvoir nous sortir de ce mur vers lequel nous avançons si fortement, c'est vraiment de travailler nos imaginaires, c'est vraiment de travailler sur la symbolique, la vision, le symbole. Nous sommes des êtres de symbole, et c'est à travers la culture dont finalement le rôle est de manier les symboles que nous allons pouvoir inventer cet autre récit et que nous allons pouvoir aller, je le crois très fortement, vers cette ville relationnelle. Parce que cette ville-là est une ville qui ne met pas au cœur de son fonctionnement les questions de la vitesse, les questions du temps derrière lequel nous sommes toujours en train de nous rattraper. C'est au contraire une ville qui nous donne la place, qui nous donne le temps plein, qui nous donne le temps de fabriquer nos souvenirs, qui nous donne le temps de rentrer en relation avec nos proches, et je dirais aussi nos plus lointains. Hein, on parle beaucoup de nos proches, mais il faut bien voir que dans la ville, on a aussi beaucoup de personnes, y compris des personnes totalement inconnues, avec qui nous rentrons en relation. Et c'est là la magie de l'espace public, c'est de nous permettre de nous frôler, de nous frotter, de nous imbriquer avec des personnes que nous ne connaissons pas aussi. Et c'est tout, on va dire, la beauté, n'est-ce pas? Et c'est une vraie beauté, il faut le souligner quand même, hein. Georges Simmel, au début du siècle, s'est beaucoup intéressé à cette question, hein, fameux sociologue de l'école de Chicago. Et la question qu'il posait, que je trouve très bonne, est la question suivante. Comment se fait-il que nous ne nous entretuons pas tous les jours alors que nous croisons facilement 1000, 2000, 10 000 personnes qui nous sont complètement inconnues? Comment se fait-il que quand je vous croise dans la rue, vous ne m'agressez pas, je ne vous agresse pas? Comment se fait-il? C'est un miracle. Il y a des tribus en Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand elles se rencontrent sur une plage comme ça, deux guerriers, d'abord ils sortent la katane, ils se regardent comme ça, c'est qui ton père? C'est qui ton arrière-grand-père? C'est qui? Et ils vont faire toute la filiation jusqu'à ce qu'ils tombent sur un ancêtre commun. Et là, ça va. Je peux... T'es mon copain, je suis ton copain. Mais nous, en ville, on ne prend jamais le temps de faire ça. On ne prend jamais le temps de se dire t'es mon copain, je suis ton copain. Non. Mais on croise plein d'inconnus. Et ça se passe bien. Et ça, c'est un miracle, sincèrement. Et il faut le souligner. Et c'est lié donc à ce troisième pilier de ce triangle relationnel qui est ma relation aux autres. Je suis en ville dans une possibilité d'expansion, dans une possibilité de me relier à tous ces autres que je connais bien, qui sont mes proches, et ces autres que je ne connais pas. Et d'une certaine façon, ça se passe bien aussi. Et donc ce triangle relationnel, on va rentrer dans les 7 figures de ville qui nous permettent de l'exprimer. Alors, il y a évidemment la ville que vous connaissez tous, je commence par la ville de la rencontre, qui est celle que nous avons tous en tête. C'est d'ailleurs celle qui nous a le plus manqué pendant le Covid, parce que c'est celle qui a été arrêtée, nette. On a fermé les restaurants, on a fermé les lieux culturels, on a fermé tous ces lieux qui étaient les lieux de la rencontre. Et donc on s'est vite rendu compte, c'est d'ailleurs ce qui nous avait frappé avec Pascal et avec Yves, qu'on avait là un souci parce que cette ville de la rencontre ne repartait pas. Quand les choses ont enfin commencé à rouvrir, après les confinements, les transports ont repris, il y a des choses qui ont repris. Il y a deux choses, rappelez-vous, qui n'ont pas repris tout de suite, les restaurants et les coiffeurs, et c'était la galère. Parce qu'il y avait des choses qui nous manquaient réellement. Et ça, je crois qu'il faut bien le dire. Et du coup, il y a d'autres figures de ville. Je dirais qu'à la fois la ville de la rencontre, évidemment, c'est celle sur laquelle vous travaillez à Fontrignon avec votre centre-ville. Vous remettez cette vitalité commerciale, mais pas que commerciale, bien entendu. C'est la vitalité, on va dire, justement, de la rencontre entre les gens, faire commerce au sens premier du terme. Mais au-delà de ça, il y a 6 autres figures de ville et aujourd'hui je voudrais assez vite vous embarquer dans ces autres figures pour vous rendre compte qu'il y a d'autres façons d'exprimer ce besoin et cette envie d'être en relation que nous avons. Et donc nous avons la ville du dehors, ça c'est une ville qu'on a d'ailleurs déjà évoquée ce soir, la présence de l'eau, la présence de la mer, la présence des montagnes, la présence du lait, la présence, je dirais, de tout élément qui nous connecte avec cette vivant que j'ai évoqué précédemment, ça se trouve généralement dans la ville du dehors. Et vous remarquerez que nous avons toujours en tant qu'humains beaucoup vécu dans la ville du dehors, c'est une ville qui est généralement assez active, mais qu'on a un peu perdu de vue au cours du XXe siècle, parce que le XXe siècle a réellement été le siècle de la ville du dedans. C'est le siècle où on nous a tous mis dans des bureaux, dans des voitures, dans des salons, devant des télévisions, et où nous avons reconfiguré nos journées et nos soirées pour passer beaucoup plus d'heures à l'intérieur. Là est un peu un souci du siècle dernier, que nous essayons maintenant de corriger depuis bientôt quand même un quart de siècle, je vous signale, et c'est pour ça que je vous enjoins à accélérer le mouvement, parce que le 21e siècle est le siècle de la ville du dehors, est le siècle de la ville relationnelle, et ça fait déjà bientôt 25 ans, pas tout à fait, mais quand ce sera Montpellier, capitale de la culture 2028, on aura déjà passé le quart de siècle. Et on n'aura toujours pas, on est un peu comme dans un paquebot qui n'arrive pas à tourner, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un moment donné où il faut vraiment qu'on renoue avec cette ville du dehors, et il faut vraiment qu'on renoue avec nos espaces publics du vivant pour qu'on puisse être réellement pleinement dans cette ville du dehors. Et puis on a cette ville amie de toutes les générations. Alors celle-là, elle me tient particulièrement à cœur parce que j'estime qu'aujourd'hui, nous avons des villes particulièrement hostiles à nos seniors et particulièrement hostiles à nos enfants et à nos pré-ados et à nos ados. Et je pense que c'est un vrai problème. Je parle ici particulièrement des adolescents qui, dans une année, deux ans, trois ans, seront des citoyens qui vont voter et qui vont décider et à qui aujourd'hui les villes ne donnent que très très peu d'espace. Je pense que là, on n'est pas dans un équilibre. La fonction civique devrait pouvoir primer sur la fonction circulatoire. La fonction civique, la fonction de rencontre entre les générations, à un moment même où nous sommes, comme vous le savez, dans des enjeux de justice intergénérationnelle qui sont énormes, dans des enjeux de comment on va faire pour être réellement démocratique, une des façons d'être réellement démocratique, c'est d'intégrer tous les publics et c'est de réellement donner de la place à chaque génération. Et toutes les générations doivent réellement pouvoir se côtoyer dans l'espace public. Et je pense que là encore, la culture a un rôle à jouer là-dessus. Vraiment. Je ne parle pas uniquement de faire des spectacles pour tous, mais je parle de comment, en s'adressant à chacun, on arrive à faire unité, on arrive à être ensemble. Ça, c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. Être une ville amie. Et j'utilise à dessein ce terme, parce qu'on pourrait dire accueillante ou... Non, il faut réellement rentrer dans l'amitié. Comme on est amis avec d'autres personnes, hein, on est dans un non-conditionnel, si vous voulez. On est dans quelque chose qui est réellement accueillant, qui donne réellement de la place. Mon rêve serait que je puisse lâcher cet enfant de 4 ans, qu'il puisse courir dans la ville. Vous savez tous que les enfants ont beaucoup besoin de courir. Un enfant a besoin de courir 50 mètres. 50 mètres, c'est une piscine olympique. Je vous mets au défi de trouver une rue dans tout Montpellier, où un enfant, vous pouvez lâcher la main et il peut courir 50 mètres. Présentez-moi cette rue et je vous dirai, oui, là, nous sommes dans la ville relationnelle. Frontignan, hein, petite mission pour vous, créez-moi cette rue. Hein, hein, vous, hein, c'est vous qui tenez le crayon, hein, créez-moi cette rue. Elle est où cette rue, hein, ça, on en a vraiment besoin. La quatrième ville, c'est la ville du fer et du tiers solidaire. Ça, c'est plutôt la spécialité de Pascal. C'est la ville qui est celle qui tient, qui est par le bas. C'est la ville démocratique par le bas. C'est la ville où c'est les gens eux-mêmes qui la font. C'est la ville de l'économie sociale et solidaire. C'est la ville de l'économie circulaire. C'est la ville que les gens... C'est aussi une ville, je dirais... très démocratique. C'est la ville où, par exemple, on va donner de la place aux sans-abri, on va donner de la place à des personnes qui n'ont pas de place, on va donner de la place à la ville inclusive, on va donner de la place aux personnes qui ont un handicap, quel qu'il soit. On va donner de la place dans cette ville pour qu'on soit quelque part plus ensemble, réellement ensemble. Et pour cela, on ne va pas faire à la place de... On va plutôt donner de la place aux gens pour qu'eux fassent. Vous savez cette fameuse histoire de « on va donner une canne à pêcher plutôt que donner du poisson » pour que les gens apprennent eux-mêmes à faire, hein, et qu'ils aient la possibilité de faire. La cinquième ville, c'est la ville de la surprise. C'est un peu la ville d'aujourd'hui dont on parle, parce que c'est la ville de la culture, c'est la ville de l'art, c'est la ville qui nous donne la possibilité de nous émerveiller, de nous surprendre. Cette ville-là, je dois dire, on y donne un peu de place, c'est vrai, dans les événements, dans les programmes culturels et artistiques, dans les espaces éphémères, mais je pense sincèrement que la loi de Pareto est passée par là et qu'aujourd'hui, on a à peine 20% de cette ville et 80% de la ville reste encore très fonctionnelle et très basée uniquement sur la ville de la rencontre. Moi, mon rêve serait que cette ville de la surprise, elle prenne vraiment de l'ampleur, qu'on lui donne réellement toute sa place dans l'espace public. Je pense que si on inversait le 80-20 et qu'on passait à peut-être, je dirais peut-être pas forcément 80% ville de la surprise, mais au moins déjà qu'on vise un 50%, qu'on vise à ce que la moitié de nos jours passés en ville soient des jours dans lesquels on est dans un émerveillement, je pense que ce serait vraiment quelque chose qui changerait nos vies à tous. Parce que je crois beaucoup au fait que la ville de la culture ne doit pas être une ville une fois par mois. Je vous dis ça parce que faites vite le calcul. Si vous allez une fois par mois faire quelque chose de culturel, c'est 12 fois par année. Si tous les jours, vous preniez une petite heure pour faire quelque chose de culturel, ce serait 365 jours par année. Ça n'a rien à voir avec 12, hein. Vous êtes d'accord? Donc vous voyez la différence dans la fréquence, et pour moi c'est toujours la question, c'est est-ce qu'on est à 12, est-ce qu'on est à 52 une fois par semaine, ou est-ce qu'on est à 365? Et pour moi la vraie question c'est, il faut multiplier, il faut que cette ville de la surprise, elle soit dans nos vies tous les jours une petite heure. Arrivons à faire ça. Enfin, la ville comestible, ça c'est une ville qui me tient particulièrement à cœur. Elle me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, en ces temps d'inflation, en ces temps où nous n'arrivons plus à nous nourrir correctement, au sens que le panier, je ne sais pas chez vous, mais moi en Suisse en tout cas, je paye le double aujourd'hui pour mon sac de course que ce que je payais il y a une année, donc c'est assez frappant quand même, hein. Et donc ça pose réellement la question de plus en plus de comment on va s'en sortir en termes d'autonomie alimentaire. Vous savez sans doute, je pense que Montpellier n'est pas différent des autres villes françaises, moi pour travailler sur ce sujet avec pas mal de villes, je sais que généralement les villes plafonnent à 2%, 3% d'autonomie alimentaire pour leur territoire, et déjà elles s'estiment heureuses, c'est vraiment pas grand chose. Je pense qu'il faut absolument qu'on prenne en compte cette question et qu'on arrive à beaucoup plus relier le geste, l'acte de se nourrir avec notre propre capacité à suivre le cycle de cette nourriture depuis le moment où on la plante jusqu'au moment où on l'accueille, juste au moment où on la cuisine, juste au moment où on la mange. Donc vraiment tout le cycle, et ça nous ferait beaucoup plus prendre en acte, si je peux dire, cette idée que la nature est nourricière et que c'est à nous de la nourrir pour qu'elle nous nourrisse. Et enfin, la ville de la nuit et du week-end. J'en parle particulièrement parce que dans la ville fonctionnelle, malheureusement, je vois encore trop d'élus, beaucoup trop d'élus et beaucoup trop de mes compatriotes qui tiennent le crayon, qui travaillent sur la ville de la semaine, la ville de l'heure de pointe, la ville du matin pour aller au boulot. Et moi, je voudrais vous dire que cette ville-là, elle n'est qu'une toute petite part de nos vies, une toute petite part de nos vies, et que le gros de nos vies, c'est les moments que nous passons avec les gens que nous aimons, c'est tous les soirs que nous passons avec les personnes que nous aimons et que nous aimerions voir plus souvent, c'est tous les moments du week-end, tous les moments du temps libre qui sont ces moments où on peut enfin respirer, sortir, prendre le temps avec nos enfants. Et donc cette question finalement du temps libre, du temps plein, que j'appelle le temps plein, elle est essentielle. Et quand on planifie, je parle là pour ceux d'entre vous qui sont dans la fabrique de la ville, suffit pas de fabriquer la ville pour le travail, surtout pas. Faut fabriquer la ville réellement pour les relations. Et les relations, elles sont dans tous nos moments, mais elles sont essentiellement beaucoup dans les moments qui sont nos moments libres. Et ces moments-là sont essentiellement le soir et le week-end. Donc voilà pour les 7 villes. Et je voudrais, si j'ai encore le temps, juste aborder concrètement. Alors concrètement, comment on fait pour transformer nos villes? Il y a 5 leviers que je voudrais évoquer avec vous. Et on va évoquer tout de suite le premier. C'est un levier qui me tient vraiment à cœur, que je viens à peine de théoriser. Hein. Il est vraiment nouveau, si j'ose dire. Il sort du four. Il sort du four lié aux canicules que nous avons vécues. Alors, je vous raconte pourquoi. J'étais cette année, au mois de juillet, dans une traversée de la Suisse à vélo. Je précise, un vélo mécanique, pas électrique. Non, j'ai aussi un vélo électrique. Hein. Mais j'étais avec mon frère, qui est un de ces vieux de la dure, là, qui m'a dit, non, l'électrique, va falloir qu'on trouve des prises, on n'en trouvera pas. Non, mécanique, comme ça, on va partout. OK, mécanique. Mais vous voyez la Suisse, c'est pas plat. Pas un pays, c'est pas la Belgique. Hein. Donc, ça monte, ça descend. Et puis, à un moment donné, il y a eu cette canicule. Ha, celle-là, on ne l'avait pas tellement mise au programme. Du coup, monter plus canicule, vous voyez, bon, c'était un peu compliqué, quoi. À tel point qu'à un moment donné, on devait aller vers Zweisimmen. Enfin, bref, je vous passe des montagnes par là. On a commencé à gravir pour aller vers ces montagnes. On a fait la moitié de la montée, puis on s'est dit, finalement, on va peut-être descendre vers l'Aar. L'Aar, c'est une rivière que nous avons, la plus grande rivière de Suisse, très ombragée, avec beaucoup d'arbres. On s'est dit, ouais, non, mais cet itinéraire, il est beaucoup mieux. On va suivre la rivière, on va être au bord de l'eau, comme ça on est un peu frais, si on a vraiment trop chaud, on plonge. Et puis c'était génial. Mais pour vous dire que nous avons carrément dû changer d'itinéraire, mais enfin, à la limite, il y a d'autres personnes qui ont plus souffert, mais c'est pour vous dire à quel point nous ne pourrons absolument pas compter sur des villes qui sont agréables pour marcher et faire du vélo, qui est notre but à tous, ceux qui travaillons dans la mobilité depuis une bonne dizaine d'années, alors même que ce sera impossible de faire 3 pas sans qu'on dégouline. Et j'ai eu moi-même l'expérience, la dernière fois que j'étais venue à Juvignac, j'ai pris le tramway pour aller à la Mosson, en l'occurrence, je n'avais pas le 3, j'avais la ligne 1, et juste le quart d'heure, le petit quart d'heure que j'ai dû faire à pied, je vois Clément qui aussi, on voit qu'il l'a vécu là, le petit quart d'heure entre la Mosson et puis la mairie de Juvignac, je dégoulinais, mais c'était 8h45 du matin. Je veux dire, même pas 9h, j'allais pour une réunion qui démarrait à 9h, en sueur totale. Eh bien, je vous dis que ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et qu'il va falloir absolument empoigner cette question à bras-le-corps et transformer nos rues en ruisseaux de fraîcheur. Mais réellement, mais ce n'est pas une trame verte que j'ai déjà ou une trame bleue que j'ai déjà le long d'un fleuve que j'ai déjà. C'est 90% de nos rues devraient aujourd'hui commencer à être transformées en ruisseaux de fraîcheur. Pour une raison simple, c'est que nous ne supporterons pas d'être à l'intérieur, nous ne supporterons pas non plus d'être à l'extérieur, nous ne supporterons pas de marcher et de faire du vélo dans les rues qu'on a aujourd'hui. Ça, nous ne supporterons pas. Ni les personnes âgées le supporteront, ni les enfants le supporteront, ni les femmes enceintes le supporteront, ça on le sait, puisque c'est ceux qui souffrent le plus de la chaleur. Mais ni vous, ni moi ne supporterons, qui ne sommes ni vieux, ni jeunes, ni enceintes. Ni vous, ni moi. On ne supportera pas. Donc si on ne supportera pas, si on est 100% à ne pas supporter, il va falloir changer 100% de nos rues. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas photo. Je pense que ça, c'est vraiment nécessaire. À Juvignac, on a... Jusque-là, la première image que je viens de vous montrer, jusque-là, ça va très bien. Hein. Bien sûr, tout le monde est d'accord. Hein. Maintenant, on rentre dans le dur. Quelles sont ces rues et lesquelles d'abord va-t-on changer ? Alors, bien entendu, il faut d'abord changer celles qui sont les plus longues, celles qui nous permettent d'aller le plus loin, celles qui nous permettent de rejoindre le plus d'attracteurs, celles où il y a le plus de convergence des flux piétons et cyclistes, et enfin ceux du corps en mouvement que j'ai cité précédemment. Et Juvignac est une ville plutôt petite, hein. Tout ça se fait en un quart d'heure, on est vraiment dans la ville du quart d'heure là pour le coup, donc ils n'ont vraiment aucune excuse si je peux dire, mais il y a quand même évidemment une autoroute qui passe par là, il y a quand même une rocade, il y a quand même des gens qui sont en voiture tout plein, hein, je veux dire. Et donc, vous voyez bien que là on commence à rentrer dans le dur, parce que quand on commence à identifier les endroits qui pourraient être transformés, mais je vous encourage à réellement avoir ce courage politique de vous dire, je ne vais pas juste faire la petite rue qui est dans un coin qui dessert 4 petites maisons là-bas au fond d'un quartier où ça n'a aucune importance, quoi. Non, il faut agir là où ça touche les gens tous les jours, là où ils vont tous les jours, là où il y a le grand centre commercial, là où il y a l'école, là où il y a les endroits où les gens vont tous les jours. Hein. Donc ça, c'est ruisseau de fraîcheur. Sur le deuxième levier, on est dans ce que... Ça, c'est un levier simple, celui-là. Enfin, je trouve personnellement qu'il est simple, parce que tout le monde adore les parcs, n'est-ce pas ? Je veux dire, généralement, les gens n'ont que des bons souvenirs, ils vont tous au parc, les enfants vont au parc, tout le monde est heureux. Et moi, c'est en travaillant pour la ville de Paris, quand j'ai accompagné la ville de Paris pour faire leur stratégie de plan piéton, nous étions en train de filmer avec un cinéaste et nous filmions beaucoup d'endroits, dont des parcs. Et en filmant les sorties, les entrées de parcs, on voyait toujours des enfants qui pleuraient. À un moment donné, je me suis dit, mais ils ont quoi ces gosses, quoi ? Sincèrement, ils viennent de sortir du parc, ça fait 2 heures qu'ils jouent, ils devraient être heureux. Pourquoi ils pleurent comme ça ? Puis quand on a commencé à regarder ces vidéos de près et quand on a commencé à regarder les scènes de près, on s'est rendu compte que les enfants sortaient en courant du parc, heureux comme tout, sur leur trottinette ou sur leur roller. Hein, ils étaient super contents, ils venaient de passer en effet ces 2 heures, super contents, ils avaient un sourire jusque-là. Mais leur mère leur disait « Marcel, arrête-toi, arrête-toi, il y a des voitures !» Et donc, genre, confiscation de trottinette, allez que je prends la trottinette d'un côté, je prends le gosse de l'autre, le gosse qui crie « Maman, mais je vais continuer à faire la trottinette !» Mais non, il y a des voitures. Vous voyez quoi? Non mais c'est insupportable quoi. Tous les parcs c'est comme ça. Parisiens, je ne sais pas les vôtres. Mais enfin, je suis prête à parier que chez vous c'est pareil. Donc il y a comme un hic parce qu'on a fait des super endroits, super zen, où les gens sont super heureux. Et dès qu'ils en sortent, ils tombent dans la poêle à frire. C'est la poêle à frire de l'océan motorisé. Où les gens perdent pied. Non mais ils se noient carrément quoi. Donnez-leur une bouée. Quelque chose. Donc, la bouée, c'est ça. La deuxième pour des parcs. Ça veut dire, on a un parc, puis on va zénifier, on va rendre zen la deuxième peau du parc. Alors, c'est quoi la deuxième peau du parc? C'est les rues adjacentes au parc. La première rue, et si possible la deuxième. Et si vous êtes ambitieux, vous pourriez faire comme à Buenos Aires. J'ai aussi accompagné Buenos Aires. Eux, ils disent, nous, on va faire jusqu'à la troisième parce que nos parcs sont très grands. J'ai dit, bah oui, moi, c'est pas moi qui vais vous dire non. Hein. Allez-y, faites même encore plus. Mais en tout cas, la première rue autour du parc, ça déjà, ce serait une grosse conquête. Et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Vous pouvez tous ici, même si vous êtes, comme je suis parfois aussi, l'automobiliste qui veut se garer à côté du parc, on peut tous comprendre qu'un enfant, quand il sort du parc, il a besoin d'espace pour courir et il a besoin de pouvoir graduellement sortir du parc. On peut tous comprendre qu'une personne âgée, quand elle sort du parc, elle n'a pas envie d'être complètement stressée, alors même qu'elle est venue dans le parc pour se relaxer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on paye des parcs des millions, c'est bien pour pouvoir en profiter jusqu'au bout. Quoi. Et sachez-le, l'ONU a démontré que quand on habite à moins de 10 minutes d'un parc, on est en bien, bien meilleure santé. C'est particulièrement important pour les jeunes filles qui ont entre 12 et 16 ans, 17 ans, qu'elles aient un parc à proximité. Parce que ça les maintient dans le fait de pouvoir faire des petites promenades avec leurs copines, de pouvoir aller de temps en temps au parc, et ça les maintient en meilleure santé que si elles ne font que d'étudier à la maison ou si elles ne font plus aucun sport. Souvent, c'est un âge où les enfants font moins de sport parce qu'ils ont beaucoup d'études. Et donc, il faut qu'ils puissent au moins faire ces promenades du quotidien, ces promenades de temps à autre avec leurs copains, leurs copines. C'est vraiment important. Alors, à Juvignac, à la fois, ils se disaient « Ah bon, il y en a beaucoup de parcs !» J'ai dit « Ouais ». Et la deuxième peau, c'est carrément tout Juvignac. Alors là, ça les a stressés, les élus. Ils se sont dit, oula, toutes nos rues sont des rues qui pourraient être dans la deuxième peau, dans le sens que toutes les rues sont à moins de 5 minutes du parc. D'un parc. Hein. Ah, ça amène de l'eau à ton moulin, Clément. Hein. Ouais, tu vas pouvoir encore en rajouter avec Coloco. Là, vraiment, vous allez pouvoir en faire. Donc, moi, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Mais tu verrais d'ailleurs que dans cette partie-là, justement, un peu vers ici, vers le haut, vers la Mosson, c'est là qu'on a peut-être quelques... Tu vois, là, ce n'est pas la même couleur, c'est plus... C'est justement là qu'il va falloir mettre le paquet. Parce que là, on n'est pas... On n'est plus, on va dire, aussi proche du parc que ce qu'on est dans la ceinture de parc, là. Mais tout ça pour vous dire qu'on a... toujours du potentiel. Je n'ai pas ici la carte de Nancy. Moi, je fais ces cartes régulièrement hein, pour la plupart des villes avec qui je travaille. À Nancy, ils ont une cinquantaine de parcs. Et quand on fait cette carte, on voit le potentiel de travailler sur un sujet qui, pour une fois, fait consensus politique. Je doute que vous... Comment dire ? Autant il y a des sujets comme celui des ruisseaux de fraîcheur précédemment où c'est difficile de dire qu'on va enlever toutes les bagnoles ou qu'on va calmer le jeu, machin. Autant ce sujet du parc... Tout le monde peut comprendre ça. Même les gens qui ne seraient pas hyper acquis sont acquis à la cause des parcs, généralement. Et puis, on est tous d'accord aussi sur le fait qu'on n'a pas d'argent aujourd'hui pour faire des nouveaux parcs. Il y a très, très peu de parcs qui sont faits. Les parcs qu'on a, on les doit essentiellement à nos ancêtres. On les doit à nos prédécesseurs qui ont eu le courage au 19e de dédier 10%, 15%, 20% de la ville à des parcs, et c'est tant mieux, et heureusement qu'on a cet héritage, mais je dois dire qu'on ne lui fait pas justice, parce qu'autour des parcs, on a vraiment fait des lieux qui sont laids à mourir et qui sont très très dangereux pour nos enfants, pour nos seniors. Je pense que là, il y a vraiment un vrai travail à faire pour que ces parcs redeviennent des havres de paix et qu'ils soient des havres de paix aussi quand on sort. Du coup, je pense qu'on peut avancer au levier suivant, qui est les bandes ludiques. Alors les bandes ludiques, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Parce que, vous le savez, beaucoup de villes, notamment dans les centres-villes, ont ce problème qu'on appelle l'exode des familles. Les familles partent se mettre au vert. Partent se mettre au vert parce que les enfants, comme je l'ai dit précédemment, ne trouvent pas les fameux 50 mètres pour courir, les fameux endroits où jouer, le fameux vert dans lequel ils pourraient jouer. Et l'autre problème que vous connaissez tous sans doute, vous l'avez sans doute vous-même déjà vécu si vous êtes parent ou si vous êtes grand-père ou grand-mère, les enfants vous demandent toujours de jouer. Ils vous demandent toujours, papa, maman, est-ce qu'on peut aller jouer ? Évidemment, eux, c'est leur vie de jouer, quoi. Mais vous, vous n'avez pas que ça à faire. Et donc, vous êtes là, vous dites, pas maintenant, ça n'arrange pas, un peu plus tard, après ci, après ça, on va revenir, non, j'ai pas trop le temps, hein ? Et donc la problématique, c'est comment on fait pour ne pas faire des places de jeu qui sont des réserves d'indiens, qui sont à perpète, pas du tout sur nos chemins de vie. Comment on fait? J'ai créé ce concept des bandes ludiques exprès pour que ce soit facile pour les parents, qu'ils aient rien à faire. Le parent n'a rien à faire, il marche. L'enfant joue à côté de lui, sur la rue. La rue qui amène au supermarché, la rue qui mène à la bibliothèque, la rue qui mène à la piscine, la rue qui mène à l'école, toutes les rues peuvent avoir des bandes ludiques. Il n'y a pas besoin de créer des places de jeu à perpète, il n'y a pas besoin de faire des choses où on peut aller que le samedi ou le dimanche ou que le mercredi après l'école, non. Toutes les rues peuvent avoir des petites bandes ludiques. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens particulièrement. Ici un exemple qui est inspiré de Superkilen à Copenhague, qu'on a eu l'occasion de visiter avec Pascal en particulier, mais toutes les rues finalement peuvent avoir. L'idée c'est que le long de la rue, vous marchez là, hein, le long de la rue, il y a des jeux, il y a des œuvres d'art qui permettent aux enfants de détourner ces espaces, il y a des endroits qui sont désasphaltés, qui permettent de jouer avec le sable, avec la boue, avec l'eau, avec ce que vous voulez, le long du chemin. Vraiment le long de vos cheminements quotidiens. Et les bandes ludiques, c'est réellement quelque chose qui peut beaucoup, beaucoup changer le visage d'une ville. Je vous cite des villes qui l'ont fait. Il y a des villes qui travaillent réellement spécifiquement cette dimension. La ville de Vitoria-Gasteiz, qui est un très bon exemple en Espagne, Pontevedra en Espagne aussi, la ville de Copenhague, qu'on vient de citer, qui a vraiment beaucoup travaillé cet aspect-là. Ce sont vraiment des villes qui ont empoigné cette question à bras-le-corps et qui réellement travaillent pour les enfants et travaillent pour maintenir les familles en ville, parce que c'est nécessaire. Et puis ça arrange tout le monde, si je peux dire, ça arrange en termes de climat, ça nous arrange de ne pas devoir faire autant de kilomètres, ça arrange les enfants, du coup ils peuvent jouer tous les jours, ça arrange les parents, il n'y a pas besoin de se déplacer pour aller encore jouer, je ne sais pas où, un endroit qui est loin. Non, tout est à proximité, tout est sur le chemin. À Juvignac, on en a identifié tout un tas. Alors, vous voyez bien qu'ils étaient là. Ah ouais, on va peut-être en faire 3. Parce que bon, c'est beaucoup hein, pour une mandature. Bah, nous, on a pris de l'avance. Hein. Là, on dit déjà un peu le plan global. Donc maintenant, bon, bah, c'est aux élus de décider comment ils veulent faire. Ils vont peut-être en faire beaucoup, ils vont peut-être en faire peu. Nous, ce qu'on identifie, c'est les potentiels. Mais je vous enjoins à faire cette même petite carte, hein, vous ici présents pour Frontignan, parce que vous allez voir que, en fait, quand on commence à chercher, on en a plein, ces bandes ludiques. On a plein d'endroits où on peut en mettre. Et ça nous fait garder nos familles. Ici, ça nous fait garder nos propres enfants. Et n'oubliez pas que quand un enfant naît et qu'il peut jouer dans la ville qui est la sienne, il y est très attaché. Et par la suite, quand cet enfant grandira, il va vouloir rester dans cette ville, il va vouloir se marier dans cette ville, il va vouloir fonder son entreprise dans cette ville. Ça me choque toujours que nous soyons si hostiles avec nos habitants futurs. Nous passons tellement de temps à accueillir nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, sans du tout nous occuper de nos enfants, ceux qui seront là demain. Mais ce n'est pas ceux qui seront là demain, c'est ceux qui, aujourd'hui déjà, apprennent à marcher. Aujourd'hui. Les enfants du Covid sont nés aujourd'hui.
Il te reste 4 minutes.
Eh bien, ça va, c'est parfait. Les carrefours vivants. Alors, les carrefours vivants, ça, c'est aussi un truc. Sincèrement, moi, je vous connais, les maires, vous faites des milliers de kilomètres de pistes cyclables, vous faites des trucs linéaires. Alors qu'on sait que le vrai truc qui change tout, c'est les carrefours. Bâle, pour vous dire une ville qui fait ça, a 16% de part modale vélo, ils ont une part modale de la marche qui est extraordinaire, ils ont une part modale transport public extraordinaire. Ils ont surtout travaillé les carrefours. Parce qu'on sait que c'est les carrefours, c'est les points noirs, c'est là que les gens se frottent le plus, c'est là qu'on est le plus désespéré, tous autant qu'on est, même les automobilistes, même quand vous êtes derrière une voiture, vous savez bien, c'est là que ça se passe mal. Alors, occupons-nous que ça se passe bien. C'est vraiment les carrefours. On peut les faire bleus, on peut les faire verts, on peut les faire de plein de façons de faire, mais l'idée c'est de les rendre plus vivants, de faire en sorte que les carrefours soient vraiment autre chose. Et comme vous le constatez, alors je vous rassure, les carrefours, il n'y en a pas 1000 non plus. Mais ce qu'il y a, il faut s'en occuper. Et les parkings prévenants, je termine avec ça. Parce que vous aurez compris que quand je dis qu'il faut rééquilibrer entre la fonction civique, la fonction relationnelle et la fonction circulatoire, je ne suis pas en train de dire qu'on ne bougera plus ou qu'on ne bougera qu'avec nos deux pieds. On va évidemment continuer à bouger avec nos voitures. Cela dit, il y a différentes façons de bouger avec la voiture. On peut bouger avec la voiture d'une façon qui est complètement far west, qui est un peu ce qui se passe aujourd'hui, ou on peut bouger avec la voiture d'une façon qui est beaucoup plus civilisée, beaucoup plus dans une harmonie avec les autres fonctions de la ville. Et donc les parkings prévenants, c'est un concept de ce genre, où donc vous avez toujours des voitures, elles sont toujours garées, mais le parking ne sert pas qu'à ça. Et pourquoi je voudrais vous dire que le parking ne devrait pas servir qu'à ça? C'est un exemple ici qui est inspiré de Montréal. Petit clin d'œil à nos amis québécois qui sont ici avec nous aussi aujourd'hui. Il ne doit pas servir qu'à ça parce que justement, on passe nos vies dans nos bagnoles. C'est justement parce qu'on est tout le temps dans nos voitures qu'il nous faut, dès qu'on peut poser le pied en dehors de la voiture, avoir la vraie ville. Mais citez-moi un parking que vraiment vous adorez, au sens que vous vous dites « Ah ben ce parking, je vais vraiment y aller, puis alors là, c'est vraiment le bonheur. » Ben, généralement, un parking beauf, quoi. Enfin, je sais pas vous, hein. c'est un peu un endroit un peu mort, un peu qui pue la pisse, c'est pas super agréable. Enfin, de temps en temps, il y a un peu de musique, c'est sympa. Mais enfin bon, c'est en tout cas pas l'endroit où je m'attarderais pour discuter avec ma voisine, quoi. Non ? Alors, il faut vraiment faire autrement. Il faut vraiment civiliser nos parkings. Je dirais même peut-être avant tout, civilisons nos parkings. Parce que c'est un endroit où on voit beaucoup. C'est justement parce qu'on y va beaucoup qu'il faudrait que ce soit des vrais endroits de la ville, qu'il faudrait que ce soit des vrais espaces publics, des endroits sympas quoi, à fréquenter. Peut-être ça nous encouragerait aussi à lâcher du coup notre voiture là et du coup à aller à pied voir d'autres endroits, voire même aller à pied à d'autres parkings, comme à Lyon. Je me tourne vers le Lyonnais de la salle. Parce que là, on a à Lyon, ils ont fait ça, Lyon Parc Auto, ils ont vraiment investi avec des artistes, ça me permet de passer la parole tout de suite.
Buren, notamment.
Qui sont vraiment des villes qui ont travaillé avec des artistes la façon d'aménager les parkings et de faire des parkings des lieux de vie. Voilà pour ce que je voulais vous dire ce soir, et j'espère que ça vous donnera quelques outils bien opérationnels pour transformer vos territoires, pour vous inspirer, pour vous dire la culture, ça peut vraiment nous aider à faire des espaces publics qui soient autres. Et donc, je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous emportez de vos bagages? En fait, vous pouvez poser des questions, bien entendu, mais je vous en pose aussi une. Qu'emportez-vous dans vos bagages de ce que je viens de vous dire? Quel est le truc, l'idée clé qui vous a le plus inspiré?
Merci. Merci, Sonia Lavadinho. Marie-Anne Thunès est directrice de l'Athéline, un lieu d'activation art et espace public à Juvignac. Et l'Athéline mène depuis de nombreuses années des projets sur le territoire de Montpellier, de la métropole, et accompagne aussi les artistes. L'Athéline fait un travail très important, structurant, essentiel pour le développement des arts dans l'espace public. Et on est très heureux que Marie soit avec nous ce soir pour nous dire comment elle voit, elle, la ville relationnelle au travers notamment de projets qu'elle a pu accompagner et mettre en œuvre avec son équipe. Alors, comment fait-on l'affichage diaporama ? C'est comme ça, tac. Et voilà. Merci Marie. Comment ?
T'as démarré par la première.
C'est pas la première, allez là, voilà. Merci.
Bonsoir, merci pour cette invitation. Oui, il y a plein de rebonds, évidemment. Je vais peut-être cutter certaines choses, comme ça, ça laissera plus de temps au dialogue aussi, et puis peut-être faire des petits écarts, notamment sur la question de la place de l'enfant dans l'espace public, dont je n'avais pas forcément prévu de parler tout de suite. Alors l'Athéline, c'est une structure culturelle qui existe depuis 16 ans maintenant. L'ancienne directrice est d'ailleurs présente dans la salle. Je la salue. On est depuis 3 ans et demi maintenant accueillis en dialogue avec la ville de Juvignac, dont Laurent Roche, élu à la culture, est présent ce soir. C'est une structure culturelle qui fait le choix d'accompagner, de soutenir et plus récemment de programmer les œuvres d'artistes qui ont choisi d'écrire avec, dans et pour les espaces publics. Je précise, j'apporte cette précision-là parce que on est sur des créations qui ne se posent pas par hasard dans l'espace public et surtout qui ne prennent pas l'espace public comme un décorum, mais qui écrivent les choses en dialogue avec un choix tout à fait assumé, affirmé et en procédant par l'enquête. Voilà. Très rapidement, alors soit je te fais des petits...
Tu peux faire ici.
Bon, voilà, je vais le faire ici. Merci. On a structuré le projet de l'Athéline autour de Toit Fabrique, qui forme l'ossature du projet. Donc la première est la plus, celle qui est le cœur en fait du projet et qui nous permet d'irriguer sur un territoire dont je parlerai dans 2 minutes. C'est la fabrique de la création. Alors la fabrique de la création, c'est tout ce temps qu'a priori on voit peu ou on voit mal. Alors on a une chance, c'est que les artistes qui créent en espace public créent et travaillent pour créer leurs œuvres dans les espaces publics. Donc parfois, on est surpris et on active cette fameuse ville de la surprise en dehors des temps de diffusion artistique, par exemple. Donc cette fabrique de la création, nous, on l'écrit des temps de recherche artistique parce qu'on sait à quel point le temps de la recherche est important, à quel point il est aussi assez maltraité. On en parlait avec Sonia juste avant le démarrage, et que la recherche artistique, comme la recherche scientifique, en fait, elle a besoin de temps, elle a besoin d'espace, elle a besoin qu'on lui foute la paix et qu'on la laisse être dans ce processus de recherche-là. On a plus classiquement des soutiens aux artistes et aux œuvres via des accueils en résidence. J'en parlerai plus tard si ça vous intéresse, bien sûr. Des temps d'accompagnement dramaturgique, des temps d'expérimentation autres. Et puis, on va jusqu'à cette diffusion, donc cette fabrique de la création, elle va jusqu'à cette diffusion qu'on a écrite à l'échelle des 31 communes de la métropole de Montpellier, puisque on est sur 31 communes, mais on est quand même sur des communes qui vont des questions rurales, en fait. Si je prends, par exemple, Saussan, ou peut-être pas Saussan, mais Montaut, par exemple. Montaut, c'est 1500 habitants. Castries, Clapiers, on est sur des communes de 8000, 9, 10 000 habitants. Juvignac, on est à 12 000, me semble-t-il, maintenant. Les communes limitrophes de Montpellier, on avoisine les 20, 25 000 habitants. Et sur ces communes-là, il y a finalement 6 structures culturelles, 6 salles de spectacle, d'accord, qui activent un projet, qui font vivre un projet. Donc si la création d'espace public n'est pas capable, n'est pas en désir d'aller sur ces communes-là qui, de fait, ne seront très certainement jamais dotées d'équipements durs, fermés, de salles, de spectacles, et qui ont, je pense qu'il n'y a pas forcément non plus comment dire, un bien fondé à ce que ça arrive. On n'est plus dans la logique de construction à outrance. Mais voilà, c'est ce projet-là qu'on a écrit sur la fabrique de la création. La fabrique... du regard, c'est tout le travail de médiation, tout le travail d'éducation artistique et culturelle, tout le travail de ressources également, dont on sait qu'il est fondamental. Et on le vit, alors évidemment, au travers de dispositifs d'éducation artistique et culturelle, de projets artistiques de territoire, etc. On le vit surtout dans l'idée qu'on n'a pas de parole sachante, descendante, qu'on n'est pas porteur d'une bonne parole et de connaissances, mais qu'on va se nourrir d'expertise, de champs d'expertise différents, et qu'un habitant, une habitante, a certainement pas une expertise d'urbaniste ou d'architecte, par exemple, ni de créateur artistique, mais pour autant, il a une expertise d'habitant. Et que cette expertise-là, si à partir du moment où on arrive à dialoguer à partir de nos endroits de regard, d'expertise propre, ben, je pense qu'on est plutôt dans la bonne voie. Ça, c'est toute la fabrique de du regard. La fabrique des paysages. Alors la fabrique des paysages, on est sur le volet du projet qui est le plus expérimental, qui se nourrit le plus de rencontres, de volonté de collaboration avec les autres personnes qui œuvrent, fabriquent, gouvernent, administrent les espaces publics. Donc on est sur toutes ces questions-là qui font qu'on se pose la question de dans quel environnement on vit, à quel point l'environnement dans lequel on évolue influence et influe nos modes de vie, nos pratiques, etc. J'essaie de passer rapidement, mais je voudrais quand même vous donner quelques exemples de projets et que le temps est compté. Alors le projet artistique et culturel et territorial de l'Ateline que j'ai écrit pour les 4 prochaines années dans le cadre d'une démarche de reconnaissance de la structure, de labellisation de l'État. L'idée, c'est d'activer une forme d'utopie. Alors, je ne parle pas d'utopie, je parle d'utopie. C'est le bon lieu, être le bon lieu, pas le lieu modeux, pas le lieu, mais être le lieu juste, essayer de travailler cette chose-là. Pour parvenir à cette ambition-là, ça implique une feuille de route. Alors, cette feuille de route, c'est... Elle se divise en 4 items. Se tenir à la lisière. Je ne vais peut-être pas faire de la lecture de cette slide-là, mais j'y reviendrai avec plaisir. C'est le pas de côté, se tenir à la lisière, c'est se tenir toujours entre deux, c'est procéder par l'enquête, c'est dialoguer, faire dialoguer les espaces ruraux, les espaces plus urbains, les espaces périurbains, parce que Juvignac est un peu archétypal en termes de ville périurbaine, et ça pourrait être intéressant qu'on en parle peut-être après, si ça vous dit. Le deuxième item, c'est le fait de prendre soin, de porter attention à... Alors ça nécessite de revendiquer le temps long, de porter attention aussi à ce qui est en déshérence. Sonia, tu parlais la dernière fois de, je ne sais plus quelle est ton expression, les top modèles. Voilà. Nous, les top modèles, ça ne nous intéresse pas trop. Par contre, on aime bien voilà, la voix qui s'élève un peu plus, de manière un peu plus fragile, etc. Et qui a pourtant des choses... fondamentale et importante à dire. Je ne détaille pas parce qu'on n'a pas forcément le temps. Alors, ces deux façons d'être, ben, l'idée, c'est que ça puisse permettre ça puisse justement laisser place à l'émergence. Alors, l'émergence de nouvelles formes artistiques, de nouvelles modalités de relations avec les habitants. On parle beaucoup plus de rapport aux habitants que de rapport à un public, d'ailleurs, dans le projet de l'Ateline. Je crois que le terme public, il est... réduit à une portion assez congrue, non pas qu'on ne le prenne pas en considération, mais parce que vous le verrez, c'est souvent pas notre modalité relationnelle première, en fait, la question du public, en tout cas dans sa dimension constituée. C'est assez stressant ton truc là. Et puis le quatrième, c'est l'idée de faire récit. Alors faire récit, c'est garder trace, faire mémoire. Alors on est surtout sur une mémoire sensible. On n'est pas des chercheurs, on n'est pas des scientifiques. Et puis surtout, le lectorat qu'on vise, ou l'audience qu'on vise, c'est vous et moi, en fait. C'est pas pour le coup... un travail d'archive que l'on cherche à créer. Pour autant, on cherche aussi à essayer de s'associer à des démarches qui créent de la ressource pour la création d'espaces publics, puisque force est de constater qu'elle est quand même assez faible. Alors les villes relationnelles, je vous ai mis, je vous laisse le temps de les lire, mais 2 petites citations de la façon dont on comprend l'espace public à l'Ateline. Ça va ? Alors, de quelles relations parlons-nous ? Les villes relationnelles, c'est avec qui, entre qui ? Donc pour nous, à l'atelier, on est convaincu que c'est avec les artistes, c'est avec la puissance de leur création, avec leur recherche, c'est avec les populations, on vient de le dire évidemment, c'est dans l'idée en dialogue avec des équipes d'élus, avec des élus, c'est en lien avec la recherche et c'est également en dialogue avec les autres actrices et les autres acteurs de l'espace public, celles et ceux qui le pensent, qui l'administrent, qui le préfigurent. Voilà. Et puis la ville relationnelle, on a choisi trois items, trois entrées là ce soir. Donc la ville relationnelle, c'est la relation avec son environnement, c'est la relation à l'autre, à l'altérité, c'est enfin la relation plus largement au monde et à notre contemporanéité. Il n'est pas facile à prononcer celui-là de terme. Alors la relation à nos environnements, je vous ai choisi deux projets que l'on porte. Un projet qui est une commande en fait qu'on a passé, qui s'appelle Paysage intime. Alors Paysage intime, c'est un projet au long cours. On fait un petit pas de côté sur la question de la création en espace public, enfin en tout cas des arts vivants, puisqu'on est plutôt sur un travail photographique. On passe commande à une ou un photographe. Et c'est un peu inspiré de la data, toute proportion gardée, en toute humilité. Mais la différence près, c'est que à la data, c'était des, on confiait en fait, on passait commande. C'est ce projet de photographie de paysage français en fait. Là, on passe commande à un ou une photographe, mais on lui demande en fait, nous on entre en relation, on s'appuie sur nos relations avec les élus, sur les communes de la métropole, sur le tissu associatif, sur les rencontres qu'on a pu mener dans d'autres projets via d'autres artistes, etc. Et en fait, on rencontre des habitants et on demande à ces habitants de nous offrir un paysage avec lequel ils ou elles entretiennent un paysage. Alors ça, c'est la photo de Caroline Wall l'année dernière qui a commencé à travailler. Et ce couple-là sont les Dumas. Ils habitent à Juvignac et leur histoire est assez belle. Je vous inviterai après à l'écouter. Donc c'est eux qui nous confient leur paysage. Donc on est finalement, nous on lance une dynamique et on se laisse porter par ça après. On ne décide plus finalement de grand chose derrière et c'est assez réjouissant. Ce travail-là, alors, parler de carte postale, je vais encore faire un... la première édition, donc ça a concerné 5 communes, on a 15 portraits d'habitants, du coup 15 portraits de paysages. Alors parfois, vous avez ces habitants qui sont au cœur de ce paysage quotidien. Parfois, c'est très, très collectif hein, comme approche. Et puis parfois, c'est, voilà, c'est le paysage sans l'habitant. Et en revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on a des entretiens avec ces personnes-là et qu'on capte de manière audio leur relation privilégiée à ce paysage-là. Pourquoi ils ont choisi ce paysage, comment est-ce qu'ils le vivent, etc. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce projet, en tout cas nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir à quel point il y a un attachement, mine de rien, à l'environnement qui est le nôtre. Il y a une compréhension parfois très fine de l'environnement dans lequel on évolue. Nous, ça nous permet aussi, ça nous demande aussi de lâcher pas mal d'a priori, notamment sur Juvignac, par exemple, et la vie pavillonnaire. Je voudrais finir juste sur cette image-là. Alors ça, c'est une vue de Juvignac sur la Mosson, avec une dame qui nous raconte le plaisir qu'elle a à observer depuis son balcon ce paysage-là. Et puis ça, c'est la photo des Dumas, en fait. Alors, Juvignac, c'est le rêve de la ville pavillonnaire. Hein. C'est une ville qui a été construite sur les premières accessions à la propriété. C'est la question du logement. Alors, on avait pas, à l'époque, pensé la relation au travail, le dézonage, etc. Le non-zoning. Et donc, du coup, c'est des maisons. Donc, ces maisons-là, on les appelle les chalandonnettes. C'est l'époque Chalandon, c'est les premières accessions à la propriété. Et du coup, elles sont toutes construites sur le même modèle. Il y a un petit bout de dehors, il y a inévitablement la place pour la voiture. Et puis, on aime bien le parpaing, souvent. C'est là que je fais part de mon a priori. Alors, c'est quand même un peu une réalité. On délimite, d'accord ? Mais c'est ce couple-là, en fait, a décidé, lorsqu'ils ont acheté cette maison-là, de ne pas monter de... Et ils ont eu la chance de tomber sur des voisins qui ont accepté et qui étaient à peu près sur la même... Voilà, donc je vous invite, si vous, si vous avez envie d'aller voir cette première salve de portraits de paysages intimes, à aller sur notre site et vous aurez du coup le travail photographique et les podcasts. Deuxième projet, j'accélère un peu, c'est Légende. Alors Légende, peut-être que certains n'y ont pas échappé, c'était au mois de juin dernier. C'est un projet qui est porté par une compagnie montpelliéraine qui s'appelle La Vaste Entreprise. Légende, c'est une invasion poétique et plastique du quartier. C'est écrit comme ça par Nicolas Heredia qui en est l'auteur. On a choisi de le poser dans le quartier des Beaux-Arts pendant 3 semaines au mois de juin. Voilà, l'équipe en action. Et alors ce projet-là, en fait, Légende, il détourne le principe de la plaque commémorative, c'est-à-dire qu'il ne commémore pas des personnages célèbres et des dates illustres, ou des, vous pouvez mettre dans le, ça marche mieux dans le sens inverse, mais ça célèbre l'infrasensible, le quotidien, l'anonyme, en fait. Et du coup, pendant 3 semaines, le quartier des Beaux-Arts, qui est un quartier très intéressant sur le plan social, parce qu'on a un peu une image à juste titre hein, d'un quartier qui fait un peu petit village, qui est quand même protégé du cœur de ville, enfin, du centre de Montpellier, etc. Pour autant, c'est un quartier où il y a un tiers du... Enfin, là, je pense qu'au bas mot, un tiers est occupé par des logements sociaux qui sont gérés par les ACM. Et que c'est quand même physiquement marqué, en fait. Hein, il y a une scission, il y a un seuil qui est marqué dans le quartier. Donc, c'était assez intéressant pour nous d'observer tout ça. Donc, du coup, c'est 350 légendes. Ça va du gros format au tout petit, c'est-à-dire que vous alliez prendre votre café ou chercher un jeu à gratter, puis vous aviez une légende dans le café ou un jeu à gratter. J'en passe, voilà. Alors ça, évidemment, ce projet, il s'est écrit avec un énorme travail de médiation, de rencontres avec les ACM, avec l'école, avec le collège, enfin le collège privé qui est présent, avec la librairie La Cavale aussi, qui était partenaire, avec la Maison pour tous, je vais en oublier, la Maison des enfants, la maison la MEX de l'Enclos Saint-François, je vais en oublier. L'assaut de quartier Beaux-Arts, bien sûr. Et donc, du coup, c'est comme ça que la rumeur a pris. Il y a une dimension performative aussi, puisque on arrive, on déboule avec une ou deux nacelles, on commence à créer. Et du coup, il y a tout un jeu qui se crée dès le moment où ça commence à s'installer. Et il y a une espèce de rumeur habitante qui enfle au fur et à mesure que... Ça fait peur. Au fur et à mesure que l'on... Je vois son chronomètre. Voilà, pour ce projet Légende, j'y reviendrai après. Et puis évidemment, voilà, ça invite aussi à ça, à une appropriation habitante tout à fait libre, qui est de l'ordre du hacking, en fait, et on le souhaite, en fait. Et du coup, ce qui est assez chouette, c'est que ça fait entrer le passé du quartier. C'est quoi qui vous ferait ? Ouais. Ça fait entrer du coup le passé de ce quartier, le présent et aussi un futur de ce quartier là et puis sur le fronton, alors il y a l'école des Beaux-Arts, j'ai oublié aussi l'école des Beaux-Arts de n'importe quoi de Montpellier, merci, qui était évidemment partenaire, et l'une des la légende qui était posée sur le fronton de l'école des Beaux-Arts, c'était la citation de Filiou qui dit que l'art est ce qui rend la vie bien plus intéressante que la vie, bien plus intéressante que l'art. C'était raté. Voilà, alors, je passe sur le second item, la relation à l'autre et à l'altérité. Alors, on ne va pas se leurrer, même si tout ce que tu nous as présenté, Sonia, est plus que désirable. La réalité, elle est quand même tout autre. On a quand même des centres-villes et des villes qui sont conçues pour le flux, qui acceptent très mal l'enfant, la personne qui flâne, la personne désœuvrée. Et que donc il y a ce constat-là, et puis il y a un changement sociétal en fait qui est à l'œuvre et qui est insidieux, qui est aussi une forme de, enfin, la société actuelle, les réseaux sociaux, etc. nous poussent à fréquenter que les mêmes, à fréquenter nos semblables. Et la question de l'altérité, la question du dissensus, elle est souvent assez voilà, un peu relégué. J'aime bien cette citation-là, parce qu'en fait, l'espace est public quand il n'est pas commun, c'est-à-dire quand il n'est pas partagé par une seule et même communauté. Grosso modo, pour résumer. Et donc du coup, je vous parlerai de Célébration. Donc Célébration, c'est la première fête de rentrée qu'on a réalisée en septembre à Juvignac, qu'on a co-écrite avec la ville de Juvignac. Et Célébration, on s'est posé sur l'une des places de Juvignac, la place du Soleil, la place Saint-Michel. Et puis juste à côté, il y a un boulodrome. Le boulodrome, c'est quand même un peu l'un des rares endroits de sociabilité de la commune. Et en fait, on a confié la curation de ce moment-là à une jeune compagnie qui s'appelle la compagnie Futur Immoral, qui elle-même a invité d'autres artistes. Donc ils ont invité les acteurs et les actrices de la Bulle Bleue, qui sont des acteurs professionnels en situation de handicap. J'espère que tout le monde connaît dans la salle le projet de la Bulle Bleue, de l'ESAT. Et puis on a aussi invité les traiteurs, puisqu'en fait on a fait une fête et on a pensé cette fête-là. On a invité l'autre dans sa singularité. On a invité les enfants. On a eu des temps et en fait on a dilaté ce temps-là, on l'a partagé ce temps-là, on a fait un banquet avec une table qu'on a décorée, qu'un artiste, Cyril Cabirol, a décorée avec des plantes tinctoriales, des plantes naturelles en fait. On a métamorphosé le temps d'une après-midi ce boulodrome qui est devenu un espace de concert, qui est devenu l'objet d'une installation au sol. On a fait cabane, on a fabriqué son pain pour le repas du soir. Et ensuite, on a fini, après le banquet, par un bal, le bal de Brigitte Négro, la compagnie Satellite, qui nous invite tout doucement à nous mettre en mouvement, tout doucement, mais rapidement. Et donc, du coup, voilà, alors, je garde ça en tête, parce que ça, c'est des gamines qui ont fini par occuper les quatre sémias qui étaient posés là, qui servent aux artistes pour le démarrage du bal. Et ces gamines-là, il y avait leur maman juste à côté qui ont passé la soirée, qui nous ont dit, mais ces moments-là sont rares, en fait, on serait jamais venu si ça n'avait pas été accueillant pour les enfants, en fait. Et ces gamines-là, une petite fille, qui nous pointe là du doigt, elle a tenu la scène pendant plus de 2 heures. Et c'était un moment précieux, je pense, cette fête-là. Plus globalement. Tous les temps de résidence d'écriture, d'immersion, les arts en espace public et la création d'espace public a besoin de se nourrir de collecte de paroles. Alors j'aperçois ici l'étoile cirée avec un projet Murmuration qui, après Verbois et avant Verbois, est sur votre territoire là, avec Scopie, en résidence. Les résidences d'écriture, les artistes se nourrissent, en fait, les artistes qui choisissent d'écrire pour les espaces publics, ils vont chercher ce dissensus-là, en fait, dès le départ, parce qu'ils vont chercher des espaces de jeu qui ne sont absolument pas faits, ni encore moins pensés, ni encore moins préoccupés au départ par la question de la création artistique. Et c'est ce contact-là, c'est ce dissensus-là qu'ils vont chercher. Alors, on ne va pas chercher le dissensus pour le dissensus, pour le plaisir, sauf à être maso, mais en tout cas, c'est Anne Le Bâtard de la compagnie... merci beaucoup, Ex Nihilo, qui dit que le dissensus, le malentendu, c'est selon elle le meilleur moyen d'entrer en dialogue avec l'autre, parce que ça oblige en fait à faire un pas de côté, ça oblige à se décentrer. Et du coup, quand on se décentre, on lâche un peu de posture, etc. Je vais vite parce que Pascal, je sais que je vais tenir à peu près le délai. La relation au monde. Alors, je voulais vous parler plus largement de deux projets. Je passerai rapidement sur Continent, Complexe Capharnaüm. Peut-être juste pour vous parler. On en parlera après pendant la rencontre, si vous le souhaitez, pendant l'échange. Juste vous parler du GK. Alors évidemment, c'est un exemple et ça ne couvre pas l'étendue du projet. Le GK Collective, c'est une compagnie, c'est un laboratoire théâtral qui est dirigé par Gabriella Cerati, qui part du principe que nous avons une responsabilité. Alors, je vous parle de ce projet-là, non pas pour faire un focus particulièrement sur mais parce qu'il y a une connivence de pensée, en fait, et que on est dans des endroits de direction de projets artistiques, dans des endroits de programmation, où on a une responsabilité beaucoup plus que l'exercice d'un pouvoir. On en a quand même passé quelques paires de dizaines et de dizaines d'années où on avait des démonstrations de pouvoir, en fait. Or, de par le médium qu'on travaille, les artistes travaillent avec un médium qui est le rapport à l'esthétique. Et Dieu sait qu'on a besoin de cette esthétique-là. Je ne parle pas juste du caractère joli des choses, voire même pas de la beauté des choses, je parle de l'esthétique. C'est Marie Reverdy qui en parle très bien, qui est dramaturge, de cette question-là. En manipulant le symbole, en ayant la capacité d'être puissant sur la question de la charge émotionnelle, on a une responsabilité. Et on a une responsabilité d'arriver à poser, à proposer des récits dans l'espace public qui sont des récits... alors, qui en capacite, puisque mais en tout cas des récits désirables. Je pense qu'on est arrivé à un point dans la société où il y a des changements de paradigme qui sont fondamentaux, qui sont à l'œuvre et qui sur lesquels on ne pourra plus revenir en arrière. Je peux parler de la question des féminismes, par exemple, ou la question de l'hypercrise climatique. Je pense que ça, c'est important de le souligner. Et on n'y arrivera qu'en déverrouillant nos imaginaires, on n'y arrivera qu'en véhiculant d'autres formes de pensée. Et moi, ce que je constate en fréquentant, parce que j'ai cette chance-là, des équipes artistiques qui cherchent, c'est qu'il y a encore quelques années, beaucoup d'équipes artistiques qui bossaient en espace public étaient beaucoup sur la contestation, la révolte. Et que là, ces mouvements-là se taisent un peu au profit de trois autres façons d'aborder les choses. La première, c'est le fait de prendre soin. Beaucoup de projets artistiques, beaucoup d'écrits, beaucoup de récits sont dans le soin, en fait. Et le soin à tous les sens du terme. Il y a aussi des projets qui hackent. Et ça, c'est important de le souligner, parce que si on veut changer de système, je crois qu'en fait, il faut le hacker, ce système. Il faut le comprendre et il faut le hacker. Et puis, évidemment, c'est continuer à célébrer. Et Dieu sait qu'on a besoin de joie. Je te rejoins parfaitement, Sonia, sur cette notion-là. Le GK collectif, je terminerai par là. La recherche de Gabriella, donc c'est... C'est un théâtre qui joue de la friction entre le réel et la fiction, entre la fiction et le réel. Pendant très longtemps, Gabriella a activé un processus de travail qui créait cette fiction, mais dans la dystopie, qui crée des dystopies et qui, donc avec un jeu hyper réaliste, en fait, vous embarquez. Alors nous, par exemple, on a accompagné un projet qui s'appelle Reveils, qui est un projet pour Seabark, qui joue de nuit. D'accord ? Et qui vous fait passer, c'est un projet pour un spectateur. Vous vivez l'aventure avec un comédien ou une comédienne qui vous embarque dans une barque la nuit et qui vous fait passer d'une rive à l'autre. Je n'ai pas besoin de détailler la multitude de symboles que ça active. Et en fait, Gabriella, elle est partie qui a une conscience accrue de la responsabilité sociale et sociétale des équipes des artistes, en fait, elle est partie du principe que nos cerveaux se sont trop habitués à la dystopie. Peut-être que la réalité nous a trop habitués aussi à la dystopie, ça vient de là. Et qu'en fait, s'il y a une manière heureuse d'agir au travers de l'acte artistique, c'est de se mettre à activer des formes d'utopie. Alors j'en arrive très rapidement au projet dont je voulais vous parler, c'est les Indicibles, et en fait ça va se poser pendant plusieurs mois sur Juvignac. Ça part évidemment d'une fiction qui serait la suivante, c'est que pendant le confinement, en loose day, il y a un décret ou un arrêté qui est passé, qui interdit la poésie, l'écriture, en fait, l'acte d'écriture, dès lors qu'il n'a pas de valeur marchande, qu'il n'a pas de valeur commerciale. Et ça serait, voilà. Et donc du coup, l'idée de cette utopie-là, c'est de former une communauté d'indicibles qui vont se battre justement pour faire exister une poésie gratuite, universelle. Et donc du coup, on n'est plus sur la réalité, la fiction, on est sur la création de réalité grâce à la fiction. J'ai terminé.
Magnifique, merci Marie, merci beaucoup.
C'était l'enregistrement intégral de la deuxième rencontre intitulée « Demain des villes relationnelles » dans le cadre de « Demain l'espace public », cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, zone artistique temporaire, les Transat, programme d'urbanisme culturel. Nous vous suggérons d'écouter les deux entretiens consacrés l'un à Sonia Lavandino, anthropologue urbaine, co-autrice de La Ville Relationnelle, et l'autre à Marie Antunes, directrice de l'Ateline. Ce programme est financé dans le cadre de Montpellier, capitale européenne de la culture.